pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et je vous le disais dans le journal, dans 30 minutes, nous vous donnerons la parole pour dresser ensemble un bilan des élections municipales d'hier au Mali, des élections plusieurs fois reportées ces deux dernières années à cause de la menace terroriste. D'ailleurs, dans le nord du pays, plusieurs localités ont été privées de vote. En tout cas, parmi les violences et les incidents qui ont été signalés hier, jour du scrutin, eh bien, précisons que 5 militaires ont été tués dans leur convoi qui transportait des urnes. 5 militaires tués donc dans une embuscade dans le nord du pays. Alors, au regard du climat sécuritaire, fallait-il vraiment organiser ces élections? C'est notre débat du jour. Vous qui êtes sur place au Mali, dites-nous comment s'est déroulé le vote dans votre circonscription. Comment expliquer finalement la faible participation? Et puis, nous verrons ensemble si l'opposition a eu raison la semaine dernière de dénoncer des fraudes. Oui, elle affirmait que des fraudes généralisées se préparaient en faveur du parti au pouvoir. Là aussi, on a envie de vous entendre évidemment sur ces critiques. 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. La rédaction, tous les matins, se fait un plaisir évidemment de vous décrypter les sujets que vous souhaitez mieux connaître, mieux comprendre. Tous les sujets nous intéressent. Le principe est simple. Vous avez une question, eh bien vous nous appelez et vous pouvez le faire tout au long de la journée. N'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter ici à Paris. Le standard est ouvert, 33 9 693 693 70. Et on va commencer avec Chekna, qui nous appelle de Bamako. Bonjour Chekna.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions concernant les adieux de Barack Obama?
Bien sûr. Juan, j'ai appris la semaine dernière que le président américain sortant, Barack Obama, a terminé sa tournée d'adieu en Europe. Sur ce, ma question est de savoir pourquoi a-t-il particulièrement choisi la Grèce et l'Allemagne?
Oui, deux destinations pour faire ses adieux aux Européens, la Grèce et l'Allemagne. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour Juan, bonjour Chekna.
Vous êtes le correspondant des RFI à Berlin. La Grèce était certes une visite historique puisque le dernier voyage officiel d'un président américain à Athènes remonte à 1999. À l'époque, c'était Bill Clinton qui était à la Maison Blanche. Mais comment expliquer ce choix? Pourquoi Athènes pour faire ses adieux aux Européens?
Alors, c'était présenté comme une visite dans le berceau de la démocratie. On a vu les images d'Obama habillé un petit peu comme le touriste moyen sur le site de l'Acropolis. Et il a notamment insisté dans un discours à Athènes justement sur ses valeurs démocratiques et aussi sur le danger du populisme qu'on pouvait aussi comprendre comme une attaque indirecte contre son successeur Donald Trump. Il a aussi évoqué notamment ce qui n'est pas nouveau de la part de l'administration Obama, des critiques contre la façon dont l'Allemagne avait géré la crise de l'euro et la nécessité de ne pas se concentrer uniquement sur l'austérité.
Donc on comprend mieux donc l'étape grecque. L'étape berlinoise, j'ai envie de dire, Pascal Thibault, elle est moins surprenante. On sait qu'il apprécie énormément Angela Merkel. D'ailleurs, il l'a dit, il a qualifié la chancelière allemande comme étant une partenaire extraordinaire. C'est à Berlin qu'il a voulu vraiment dire adieu à tous les dirigeants européens.
Effectivement, Obama est venu durant ses deux mandats six fois en Allemagne. Aucun président américain avant lui n'est venu aussi souvent en Allemagne. Effectivement, Angela Merkel est perçue par lui comme son alliée la plus fiable. Et on avait un petit peu l'impression, en tout cas c'était présenté par beaucoup comme ça, qu'il lui remettait le flambeau du monde libre en quelque sorte, dans la mesure où Angela Merkel est un peu perçue par certains. On a vu aussi, c'est ce que disait un édito un article du New York Times, comme le dernier rempart du monde libre après l'élection de Donald Trump. On a vu aussi que vendredi matin, il y a eu un mini-sommet européen avec d'autres dirigeants qui étaient invités, d'Italie, d'Espagne, de Grande-Bretagne et François Hollande pour la France. Et là, on voyait bien aussi autour de cette table que par rapport à à des responsables européens tous plutôt mal en point, eh bien Angela Merkel reste un petit peu le pilier de la continuité, ce qui s'est encore un peu plus renforcé hier soir avec l'annonce de sa quatrième candidature l'année prochaine.
Ouais, il faut dire que parmi les dirigeants européens, c'est avec elle, hein, avec Angela Merkel, que Barack Obama a noué les liens les plus étroits. Et puis on se souvient que Barack Obama, vous le disiez, il s'est rendu à plusieurs reprises lors de ses deux mandats, et il est même allé à Berlin avant même d'être président des États-Unis. Il était encore en campagne électorale, c'était en juillet 2008, et j'ai revu les images ce week-end, des images extraordinaires. Barack Obama en meeting à Berlin, à l'extérieur, devant une foule d'Allemands incroyable. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes pour venir entendre celui qui, à l'époque, était encore, j'ai envie de dire, uniquement candidat des démocrates.
Effectivement, ça avait été un épisode extrêmement marquant. 200 000 personnes étaient réunies au pied de la colonne de la victoire à Berlin pour saluer celui qu'on percevait à l'époque comme le nouveau messie en quelque sorte. Il faut rappeler aussi d'ailleurs à l'époque que ce discours n'avait pas pu se faire là où il le souhaitait, c'est-à-dire devant la porte de Brandebourg avec une coulisse pour les médias un peu plus connus. Angela Merkel s'y était opposée, c'était une époque où elle regardait un petit peu avec un regard un peu soupçonneux ce personnage grandiloquent, et elle se demandait si c'était pas beaucoup d'esbrouf. Et les relations se sont améliorées par la suite, même s'il y a aussi eu des bas qu'il faut rappeler, notamment l'affaire de l'espionnage par les services américains de la NSA, et notamment l'écoute du portable de la chancelière, qui n'a évidemment pas beaucoup été appréciée ici. Donc à la fin, on a célébré une relation des plus étroites, mais il faut pas non plus oublier que on défend aussi ses intérêts et qu'il y a eu également quelques turbulences durant ces deux mandats.
Ce furent des relations en dents de scie. Merci beaucoup Pascal Thibault, bonne journée à Berlin. On remercie évidemment Chekna qui nous appelait de Bamako. 33 9 693 693 70. Bonjour Yves.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Paris.
Exactement.
On vous écoute.
Bonjour aux auditeurs de la Radio Mondiale et à toute l'équipe de RFI.
On vous écoute. Alors, j'ai une question sur la Cour pénale internationale.
Exactement. J'ai entendu sur les antennes de RFI que le bureau du procureur de la CPI a décidé de mener des enquêtes sur des exactions et des tortures de l'armée américaine en Afghanistan. Alors, quelles sont les personnes visées par cette enquête de la CPI? Et est-ce que la CPI a le pouvoir de juger des soldats ou fonctionnaires de l'armée américaine, sachant que les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome?
Ouais, bonne question, effectivement. Je précise que Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, est aujourd'hui l'invitée des RFI. Entretien à écouter sur notre site internet rfi.fr. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous suivez ce dossier pour RFI. Autant dire que les États-Unis n'apprécient pas que la Cour pénale internationale envisage d'ouvrir une enquête sur d'éventuels crimes de guerre perpétrés en Afghanistan par l'armée américaine, mais aussi par la CIA. Il faut déjà préciser, Pierre, que la plupart des faits qui sont reprochés aux Américains remontent au début des années 2000. Je crois qu'on est en 2003-2004.
Oui, l'essentiel remonte à 2003-2004, c'est ce que dit le rapport préliminaire du procureur, sachant que l'enquête est ouverte sur une période plus longue, puisqu'elle va jusqu'en 2014, mais c'est vrai que l'essentiel des faits qui lui sont reprochés à l'armée américaine et à la CIA, c'est cette époque-là, 2003-2004, vraiment les débuts de la guerre.
Alors, qui est concerné directement? Qui est visé par la CPI?
Alors le problème, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Le bureau du procureur n'en sait rien non plus. On a juste les forces armées américaines d'un côté, la CIA de l'autre, mais aucun nom. Il y a eu des enquêtes aux États-Unis, par exemple des enquêtes qui ont débouché sur 70 cours martiales. Il y a eu aussi l'examen par le ministère de la Justice américain du cas de 101 détenus en Afghanistan, justement, qui n'ont rien donné parce que les autorités américaines ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'avoir des poursuites sur ce point-là. Mais les États-Unis ont refusé systématiquement de donner le moindre nom à la Cour pénale internationale. Et c'est ça le problème. On sait pourquoi. On connaît le nombre de victimes, par exemple. 61 détenus pour ce qui concerne les forces armées américaines, 27 détenus pour ce qui concerne la CIA, qui sont accusés de torture, de traitement cruel en prison, donc d'atteinte à la dignité des personnes. Et puis pour la CIA, il faut rajouter des viols. Mais les identités des militaires et des membres des services de renseignement concernés, elles, ne sont pas connues. il faut comprendre ça, Yves, malheureusement.
Et on rappelle que les techniques d'interrogatoire utilisées à l'époque par l'armée américaine et la CIA sont des techniques qui, en droit international, sont évidemment interdites. Elles avaient été mises en place, instaurées par George Bush. Depuis, Barack Obama les a interdites. On parle de privation de sommeil, de simulation de noyade, d'exposition à des températures chaudes et froides. Est-ce que l'armée américaine peut véritablement être poursuivie par la CPI? La question d'Yves est pertinente. Les Américains n'ont jamais ratifié le statut de Rome, l'acte de naissance de la Cour pénale internationale.
Non, effectivement, et c'est très important de le souligner. Alors effectivement, la réponse courte à la question d'Yves, c'est non. La Cour pénale internationale ne peut rien faire vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis ont toujours refusé de signer le statut de Rome, justement pour que ces forces armées en opération extérieure ne soient pas inquiétées. Ça, c'est la réponse courte, mais il faut tirer quatre points supplémentaires. D'abord, les Américains ne sont pas les seuls à être inquiétés. Il y a aussi les talibans, évidemment, dont la Cour pénale internationale dit qu'ils sont responsables, entre 2007 et 2015, par exemple, de 45 000 victimes, dont 17 000 morts. Il y a aussi les fonctionnaires, l'État afghan. Il y a 5 000 détenus dans les prisons actuellement en Afghanistan qui sont eux aussi soumis à des traitements inhumains, des tortures, des souffrances extrêmes. Ça, c'est les deux premiers points. Et puis le troisième point qui est intéressant pour les États-Unis justement, c'est que le procureur rajoute la Pologne, la Lituanie et la Roumanie qui sont signataires du statut de Rome, qui peuvent donc être poursuivis parce que sur leur territoire, les prisons secrètes de la CIA, dans cette époque que vous précisiez, 2003-2004, ont été le théâtre de torture. Et donc, la conclusion de ça, c'est que, en fait, c'est aussi un peu politique dans le sens où Fatou Bensouda a peut-être voulu prouver aux pays africains que la CPI poursuit aussi des pays occidentaux et pas seulement des pays africains, puisqu'on accuse beaucoup la CPI en Afrique d'être une justice néocoloniale, vraiment à deux vitesses. Et il y a eu justement, en ce moment la conférence, l'Assemblée des États partis au statut de Rome, et c'était juste avant que Fatou Bensouda a sorti ce rapport, parce que cette année, dans le mois dernier, trois pays, le Burundi, la Gambie et surtout l'Afrique du Sud, ont décidé de quitter le statut de Rome. Et ça, ça inquiète beaucoup, évidemment, les autres pays et puis les partisans de la justice internationale. Et c'est peut-être aussi en partie pour ça que les États-Unis sont pointés comme ça.
Ouais, les États-Unis qui n'ont pas ratifié le traité de Rome, et il est peu probable que Donald Trump, prochain président américain, le fasse. D'ailleurs, on se souvient que durant la campagne électorale, Donald Trump s'était dit favorable à la torture par simulation comme méthode d'interrogatoire. On verra s'il passera à l'acte. En tout cas, merci beaucoup, Pierre Benazet, d'avoir répondu à Yves. Yves, on a répondu à vos questions.
Oui, exactement.
Eh bien, bonne journée à vous et merci de votre fidélité à Paris. Bourina, bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez. Bonjour, les auditeurs de Radio Mondiale.
Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso, et vous avez des questions concernant le tombeau du Christ.
Oui, effectivement, mes préoccupations sur les travaux de recherche qui sont en train d'être faits sur la supposée tombe de Jésus sont les suivantes. Quelles sont les analyses qui seront effectuées et qu'est-ce que les chercheurs espèrent trouver?
Alors, c'est vrai que des scientifiques ont soulevé la plaque de marbre recouvrant ce que les chrétiens considèrent comme étant la tombe de Jésus. Vincent Lemire est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment. Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Vous avez publié des ouvrages, notamment Jérusalem, histoire d'une ville-monde, aux éditions Flammarion. Faut d'abord préciser à nos auditeurs que le tombeau du Christ se trouve à Jérusalem, mais où exactement?
Alors, il se trouve dans la vieille ville, à peu près en plein milieu de la vieille ville, ce qui d'ailleurs pose des petits problèmes à certains pèlerins, puisqu'on sait que dans les évangiles, le tombeau est situé à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Le chemin de croix sort des murailles. Mais certains archéologues expliquent que les murailles de Jérusalem, à cette époque-là, à l'époque romaine, étaient en fait un autre emplacement, et que donc le tombeau actuel pouvait tout à fait être situé extramuros, à l'époque.
Alors c'est la première fois que cette pierre tombale est soulevée depuis 1810. Cette pierre a été soulevée dans le cadre de la rénovation de l'église, où se trouve donc, si j'ai bien compris, la tombe du Christ.
Voilà, exactement. Il faut d'abord bien préciser que ce sont des travaux de restauration conservative. C'est une intervention technique. C'est pas du tout une intervention archéologique. En fait, le tombeau est soumis à un stress hygrométrique et thermique en fait assez important avec les millions de pèlerins, de visiteurs qui se rendent au Saint-Sépulcre depuis des années. Il y a eu aussi des tremblements de terre, notamment celui de 1927, qui ont beaucoup fragilisé l'édifice. Donc c'est d'abord une intervention technique. Effectivement, c'est pas du tout la première fois que le tombeau est ouvert. Donc ça, il faut le préciser. Et puis, il faut dire évidemment que, par définition, à partir du moment où les gens qui ont fait cette intervention, c'est notamment le patriarcat grec. Donc ce sont des églises, hein, ce sont des gens croyants. Par définition, ils n'espéraient pas trouver de restes organiques,
hein,
surtout pas d'ossements ou de restes de corps, puisque à partir du moment où il y a la résurrection, il faut bien que tout le corps du Christ ait disparu. Donc il n'y avait aucun espoir, il y avait même évidemment l'espoir de ne rien trouver de ce point de vue-là.
Et en même temps, les chercheurs espéraient malgré tout faire de nouvelles découvertes, ou en tout cas enrichir les connaissances sur la mort du Christ, puisque j'ai cru comprendre qu'ils avaient prélevé, grâce à des outils techniques très performants, infrarouges, etc., pour essayer de récupérer malgré tout des informations sur la présence du Christ.
Alors voilà, c'est exactement comme il y a eu notamment au XVIe siècle, il y a aussi une ouverture, c'est qu'en fait ce qu'on espérait trouver, ce qu'on espère peut-être encore trouver, mais les résultats ne sont pas rendus publics, ce sont effectivement ce qu'on pourrait appeler en fait des reliques, c'est-à-dire des traces qui attesterait qu'on est bien sur la tombe du Christ. Alors ça pourrait être des graffitis, ça pourrait être des petits bouts de bois, notamment, alors en 1555, on nous expliquait qu'on avait trouvé un petit bout de bois, qui était évidemment un petit bout de la croix. Ça pourrait être des petits morceaux de linge, hein, on sait que le Saint-Suaire fait l'objet d'une grande dévotion de la part de certains catholiques, donc ça pourrait être un petit morceau du suaire. Ça pourrait être quelques restes organiques, ça pourrait être par exemple des traces de sang, ça pourrait être même des traces de larmes, hein, selon les théologiens. Ça pourrait être des traces d'onguents. Le corps du Christ, si on en croit les techniques de l'époque, a sans doute été préparé avant sa mise au tombeau. L'onguent, hein, c'est le fameux saint crème, hein, dont les rois et les empereurs occidentaux étaient oints pour être couronnés. Donc ça pourrait être des choses comme ça. Il y a eu des choses un peu plus bizarres qu'on nous a expliquées au moment de l'ouverture du tombeau. On nous a dit qu'une très bonne odeur s'était dégagée du tombeau. Alors ça, c'est très étonnant, parce que vous savez que c'est l'origine en fait de l'expression être en odeur de sainteté. Hein, l'odeur de sainteté, quand on ouvre le tombeau de quelqu'un qui est saint, normalement on ne doit pas avoir une mauvaise odeur, on doit avoir une bonne odeur qui se dégage. Donc ça c'est évidemment plus de l'ordre de la croyance. Et puis on nous a dit aussi qu'il y avait eu peut-être des perturbations magnétiques au moment de l'ouverture. Là, pour le coup, on est plutôt effectivement dans l'ordre de la croyance pure. Hein.
Effectivement. En tout cas, on attend évidemment avec impatience les résultats de toutes ces recherches menées par les scientifiques en ce moment à Jérusalem. Vincent Lemire, merci beaucoup d'avoir été avec nous, historien. Boureina, bonne journée à Ouagadougou. On va terminer sur une question concernant les élections municipales au Mali. Les Maliens étaient appelés hier à élire leurs conseillers communaux et municipaux. Belko, bonjour.
Bonjour, bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bamako, on vous écoute.
Oui, effectivement, à l'hippodrome. La séance est opposée à l'élection d'hier. Alors, quelles sont exactement les revendications de la séance? Et pourquoi parle-t-elle de la violation de l'accord de paix?
Oui, la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad, les ex-rebelles qui estimaient que ces élections étaient une violation de l'accord de paix. Serge Daniel, bonjour. Il nous reste une petite minute avant le journal, mais on vous retrouvera évidemment juste après, puisqu'on parlera de ces élections avec tous les auditeurs. La CMA a dénoncé l'entêtement du gouvernement à organiser ce scrutin. Pourquoi?
Alors, pour trois raisons essentielles, Juan. D'abord, la CMA estimait qu'il fallait organiser le retour des réfugiés. Vous savez que dans le nord du Mali, il y a des réfugiés, des habitants du nord du Mali qui sont réfugiés au Burkina et en Mauritanie. Retour des réfugiés, sensibilisation des électeurs, mais mise en place des autorités intérimaires aussi. Alors, ce que dit la CMA, c'est que le nord n'est pas prêt pour aller aux élections, parce qu'il fallait aussi organiser des patrouilles mixtes. Donc, il y a plusieurs revendications, dont celle-là, pour dire nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections.
Et on détaillera évidemment l'essentiel de ces revendications juste après le journal. Serge Daniel, en direct de Bamako, vos réactions et vos témoignages, vous qui êtes allé voter hier au Mali, on vous attend au standard.
Priorité santé. Claire et